Chapitre 6. Mary Bones fut d'abord un peu étonnée et même contrariée de l'assaut furibond que lui livraient les vampires, car il y croyait encore loin de lui. On est sujet à ses mécomptes quand on combat des créatures extra-naturelles. Habituellement, elles possèdent une agilité et une souplesse de beaucoup supérieures à celles des humains. L'étonnement de Mary Bones ne l'empêcha pourtant pas de planter son crâne dans l'estomac du grand coquin qui le brûlait de son haleine, mais à travers le matelas de ses cheveux, il ressentit de ce choc une impression de froid si désagréable qu'il se promit de ne plus toucher à le pareil bête qu'avec le pied, et pourtant, il n'était pas fier. Malgré sa belle apparence de jaspe, la poitrine du grand coquin était flasque et glacée comme le ventre d'un poisson. Le coup de tête avait été bon néanmoins, et le grand coquin, lancé à travers la presse, n'était tombé qu'après avoir renversé une demi-douzaine de monstres sur son passage à reculons. Cela fit un peu de place autour de Mary Bones, qui put regarder derrière lui. Une muraille hurlante et mouvante le séparait déjà de ses compagnons. Il se vit débordé, entouré, abandonné. Ah, voilà bien comme sont les Anglais, se dit-il, rendu injuste par son malheur à l'égard de la plus civilisée des nations. Mais peut-être ont-ils eu assez de bon sens pour comprendre qu'un Irlandais se dire toujours d'affaire. Et il se mit à ruer un moulinet, si roide et si dru, que la vampirerie fit des milliards de chandelles. Il n'y avait personne pour jouir de ce surprenant spectacle. Un simple domestique tenant en échec une émeute composée de tous les vampires de la terre parvenus au plus extrême degré de la fureur. C'est invraisemblable, je ne dis pas non, mais rigoureusement vrai. Et même Mary Bones, en les assommant, leur chantait des chansons de pays qui n'avaient ni queue ni tête et leur lançait des plaisanteries de mauvais goût qu'il faut pardonner à sa mauvaise éducation. Mais, soyons justes, ils étaient trop. Il en venait. Les chiens, surtout, se montraient enragés. Les oiseaux y mettaient un acharnement intolérable. Et quand les araignées s'en mêlèrent, ainsi que les fétides chauves-souris, Mary Bones perdit patience. Ce n'est pas que les maîtres vampires soient très nombreux, heureusement, non. Sans cela, le monde mourrait exsangue. Mais outre qu'ils ont leur double, chacun d'eux traîne après soi ses accessoires ou annexes qui peuvent se redoubler aussi. Tel vampire appartenant à la grande banque ou à la noblesse entretient jusqu'à des centaines de clients, et ceux de la gentry n'en ont jamais moins d'une cinquantaine. Cela donne, pour la ville de Selene, une population à coulisses, qui peut rentrer en elle-même comme les tuyaux d'une longue vue ou les diverses parties d'une canne à pêche. C'est fatigant. D'autant plus qu'on a beau faucher ces abominables prés vivants et grouillants, rien n'y fait. Arriva un moment où le pauvre Mary Bones fut sérieusement embarrassé. Il avait deux chiens à chaque jambe, trois araignées dans le dos, une chauve-souris sous l'une et l'autre aisselle, et plusieurs douzaines de sangsues, ça et là. Quatre vautours se dissipaient ses yeux, et en même temps, les hommes verts lui portaient des coups vigoureux avec toutes sortes d'armes. Oh, il y avait de quoi incommoder le garçon le plus brave. Et tout à coup, il se frappa le front, une idée lui poussait. Il avait posé la cuillère à potage entre ses jambes pour garder la liberté de ses deux mains. « Vous n'avez pas oublié qu'elle contenait les cendres du cœur de feu, monsieur Goetzi. » Mary Bones se souvint que Polly avait préconisé vivement les vertus de cette cendre. Désirant voir un peu ce qu'il en était, il marcha sur les mains pour secouer la vermine qui le gênait et joua des talons à la ronde, si héroïquement qu'il fit reculer ses persécuteurs de quelques semelles. Ayant ainsi du champ, il releva la cuillère et la mit sous le nez du premier homme vert qui se rapprochait de lui. L'effet fut satisfaisant. L'homme vert fit aussitôt explosion, car je pense qu'on peut appeler ainsi un internement qui disloque le sujet mettant pièce jusqu'à ses vêtements, sans parler des dégâts occasionnés à la ronde. Ce résultat causa à Mary Bones une des surprises les plus agréables qu'il ait éprouvées dans sa vie. Il enfila aussitôt tous les jurons connus dans l'ouest de l'Irlande, et plantant le manche de la cuillère dans ses cheveux où elle se tint ferme comme un clou piqué dans du bois de chêne, il exécuta avec entrain les principales figures du Lillibourreau dans la danse nationale. Après quoi, il fit signe qu'il voulait parler. « Tote couleuvre, dit-il, comprenez-vous l'irlandais? Si vous voulez me laisser tranquille, je consens à ne pas vous exterminer tous jusqu'au dernier, mais si vous continuez à m'impatienter... » Il fut interrompu par de perçantes clameurs, voix d'hommes, glapissements de femmes, hurlements de chiens, cris d'oiseaux, sifflements de reptiles et huées de noctilopes. Et tous ces tapages disaient « Tu es notre prisonnier, on a fermé la porte, baissé la herse, levé le pont. Si nous ne pouvons te vaincre par la force, la famine te tuera et nous donnerons ton sang à nos pourceaux. » Justement, le pauvre Mary Bone commençait à se sentir en appétit. La pensée de mourir de faim fit naître en lui une légitime colère. « C'est ce que nous allons voir, sans diable ennemi !» s'écria-t-il en retroussant ses manches. Et reprenant sa cuillère magique, il marcha résolument vers la porte de sortie. Personne ne l'empêcha de passer. La cohue se tenait à distance, en riant d'un air goguenard. En arrivant à la porte, le pauvre Mary Bones la trouva en effet close et barricadée. Il essaya de la secouer, mais il eut plusieurs faits d'en ébranler les tours de l'abbaye de Westminster. Désappointé par un second contretemps, il resta un petit instant indécis, et la canaille de rire à gorge déployée en contemplant son embarras. « Oh, il ira bien qu'il rira le dernier !» gronda Mary Bones, qui se grattait les deux oreilles jusqu'au sang pour avoir une idée. La canaille lui répondit à distance. « Voilà, il est un mendiant. Tu mourras de faim, oui, de faim !»« Oui, de faim !» répéta Mary en les contrefaisant. Et voulant les rallier par un geste usité dans le bas peuple, il eut un mouvement si malheureux que la cuillère à potage se retourna versant à terre la cendre du cœur de feu M. Goetzi. Un hurlement de triomphe poussé par les vampires célébra cet accident dont les conséquences pouvaient être incalculables, et l'horrible foule s'ébranla de nouveau furieusement. Mary Bones ne fut pas sans être un peu déconcertée tout d'abord, mais il tapa trois petits coups sur son front et dit en clignant de l'œil à l'Irlandaise « Oh, ben voilà l'idée qui pousse, attendez voir, on va rire !» La cendre était tombée au ras de la porte qui était en acier fondu. Pendant que la cohue se rapprochait d'un tumulte, Mary Bones, grattant le sol, ramassa ce qu'il put de la poudre au fond de sa cuillère, mit le reste en petit tas. Puis il se retourna. Il était temps. La meute entière, quadrupèdes, bipèdes, oiseaux ophidiens, se ruait sur lui avec ensemble. Il choisit dans la mêlée une belle coquine à chignon blanc qui empestait la parfumerie, et il la saisit par la nuque à poignée. Oh, cela fut si rapide que personne ne put l'empêcher, et c'est à peine si une malédiction eut le temps de passer entre les lèvres embrassées de la virago. Mary Bones, malgré les morsures, les piqûres, les coups d'aile et d'assommoir, la courba d'un bras puissant jusqu'à ce que sa bouche touchât le petit tas de cendres. Vous avez déjà une idée de la violence de ce produit, puisque son odeur seule avait fait éclater un vampire. Aussitôt que les lèvres de feu de la courtisane entrèrent en contact avec la cendre, il y eut non pas une explosion cette fois, mais une éruption comme celle du Vésuve ou de l'Etna. La porte d'acier fut enlevée et portée à une distance incroyable. La herse brisée en 1000 pièces, la muraille réduite en morceaux qui auraient pu servir de macadam. Et par un effet assez curieux, le pont-levis restant intact, eut seulement ses chaînes brisées et tomba d'aplomb à sa place ordinaire au-dessus de la douve, tout exprès pour donner passage au pauvre Mary Bones. Oh, vous parlerai-je des dégâts produits dans la cohue? Non. Vous pouvez bien les imaginer. Qu'il vous suffise de savoir que Mary Bones n'eut qu'un certain nombre d'écorchures insignifiantes, quelques contusions et environ les 2/3 de sa laine brûlée. Il comptait justement se faire tailler les cheveux le lendemain, et cela lui en épargna la peine. « Un cadet !» dit-il en regardant la hachie de vampires qui l'entourait. « La farce est bonne. Portez-vous bien !» Et il traversa le pont, se tenant les côtes à force de rire. Malgré ce brillant succès, le pauvre Mary Bones n'était pas au bout de ses peines. Une fois le pont franchi, c'était la nuit, la grande nuit opaque, impénétrable. Mary Bones s'éloigna d'abord à toutes jambes, mais au bout de quelques pas, surpris de n'entendre aucun bruit, il se retourna et ne vit rien. C'était des ténèbres complètes et un silence absolu. Le seul fait de s'être retourné avait suffi pour égarer Mary Bones, qui se mit à marcher au hasard, oppressée par des terreurs inconnues. Il aurait dû aller droit devant lui, c'est bien certain. Mais les gens de son pays ont dans la tête une girouette. Et tout d'un coup, et sans raison, il tournait à droite, sollicité par une lubie qui passait, et puis l'instant après, il se figurait qu'il revenait sur ses laines et tournait à gauche. De cette manière, on ne fait pas beaucoup de bon chemin. C'était le cas du pauvre Mary Bones qui n'avançait guère. Au bout d'une heure, et comme il changeait de direction pour la 21e fois peut-être, il se heurta contre un homme qui le croisait à angle droit. Mal avisé, brutal. Tiens, Grey Jack. Oh, demoiselle, demoiselle, ce fainéant de Mary Jones n'est pas mort. Telles furent les paroles échangées. Presque au même instant, une lueur se fit dans la nuit, et notre Anna apparut, tenant à la main une bougie qui éclaira Ned. Jack et le cercueil de fer. Ils avaient perdu le docteur Magnus et le jeune artiste Esclavon, personnage de second ordre dont vous devinerez aisément le sort final, quand vous saurez que la nuit était pleine de vampires altérés de vengeance et qui cherchaient quelqu'un à dévorer. Notre Anna et sa suite s'étaient égarées, tout comme Mary Bones. Oh, vous demanderez peut-être comment cela se faisait, puisqu'ils avaient avec eux Polly Bird, ancien double de M. Gonzi, et qui devait être familière avec toutes ces diableries. Mais je vous répondrai que cette malheureuse avait éprouvé un très grave ébranlement lors de la section du filet mystique qu'il a renouvelé à son séducteur et maître. De telles opérations ne se peuvent subir sans que la santé générale en soit sensiblement affectée. Les événements subséquents, si terriblement dramatiques, avaient achevé d'épuiser ses forces, d'autant que l'air n'était pas bon à l'intérieur du cercueil. En conséquence de ces causes réunies, l'ancienne Polly s'était endormie dans sa boîte, et tous les efforts tentés depuis lors pour l'éveiller étaient restés vains. On prit un instant de repos pour tenir conseil. Mary Bones, mettant à profit ce loisir, secoua ce qui lui restait de cheveux et ses vêtements où s'étaient collés de nombreux lambeaux de vampires. Notre Anna examina curieusement ces débris au point de vue de l'histoire naturelle. Et voici le résultat de ses observations. Selon elle, la chair de vampire a une densité très faible. Elle est molle et même un peu gluante. Elle répand dans les ténèbres un rayonnement phosphorescent d'un vert pâle. Au jour, elle est au contraire d'un vert foncé, jaspé de rouge noir. Il n'y a pas de petits détails pour la science. Je vous donne du reste ces renseignements pour le prix qu'ils m'ont coûté. L'avis unanime du Conseil fut qu'il fallait percer par tous les moyens possibles cette croûte d'obscurité. Au jugé, il devait être à peu près 2 heures après midi. Par conséquent, en arrivant aux frontières de la nuit factice, on trouvait encore le plein jour. Mary Bones reprit sa place à la tête de la colonne et le départ fut ordonné. Après une marche longue et monotone, un cri d'allégresse s'échappa de toutes les poitrines. « La lumière !» Ce n'était encore qu'un faible crépuscule, mais quelle joie d'apercevoir, même confusément, quelque chose qui ressemblait à une clarté. Nos amis allaient précipiter leur marche, lorsqu'ils s'arrêtèrent soudain, glacés par la terreur. Des nuances verdâtres avaient tout à coup traversé l'atmosphère. Et en même temps, un bruit sourd, pareil au retentissement d'une troupe de cavaliers, se fit ouïr, et de longues files d'ombre livides glissèrent à droite et à gauche. « Oh, les vampires ! Les vampires !» C'était trop vrai. Tout ce qui restait de valide dans Séléné avait scellé qui sont dogues, qui sont lions, qui sont tigres, et cette monstrueuse cavalerie enveloppait déjà nos infortunés compagnons, pendant que d'autres scélérats, montés sur des chauves-souris d'espèces variées, arrivaient par air en faisant claquer les ailes membraneuses de leurs coursiers. Plus d'espoir. Mary Bones avait perdu sa fameuse cuillère en chemin. C'était la fin de l'histoire. Mais, précisément à cette heure d'agonie, au moment où les sanguinaires cohortes se ruaient de tous côtés sur nos amis, une musique céleste se fit entendre dans l'éloignement. Et, dois-je le dire, l'obscurité se mit à reculer devant cette harmonie enchantée qui semblait apporter avec elle la bien-aimée lumière du jour. La horde des vampires, un instant étonnée et indécise, s'enfuit bientôt en hurlant, comme 100 démons sont mis en déroute par l'approche d'un seul ange. C'était bien un ange qui venait. Comme les anges, ces êtres adorables n'ont qu'à paraître pour accomplir des miracles. Il n'est pas même besoin qu'ils y pensent ou qu'ils le veuillent, leur bienheureuse présence suffit. Le très honorable Arthur, toc toc toc, celui que nous appelons dans une autre contrée qu'avec tant de raison l'inconnu comparable à un dieu, n'était pas venu dans les plaines de la Serbie pour protéger notre Anna et ses compagnons. Comme en Hollande, naguère, il n'étudiait ici l'art des combats, sous l'action du respectable ecclésiastique membre de la communion anglicane qu'il accompagnait en qualité de précepteur. Non, il était là, visitant les champs de bataille, où s'illustrèrent successivement Soliman II, le prince de Bavière, le prince Eugène et tant d'autres. Oui, c'était l'honorable Arthur, blond, rose, imberbe, dans sa chaise de voyage admirablement confortable. Pendant que le vénérable ecclésiastique faisait la sieste après un déjeuner substantiel, le jeune lord, oubliant un instant ses travaux précoces, chantait le « God Save the King » en s'accompagnant de la guitare. Il passa et ne vit même pas ce qu'il avait ressuscité. Notre Anna ne voulut pas même retourner à Semlin. On laissa le Danube incontinent et l'on prit la direction de l'ouest pour courir enfin au secours de la malheureuse Cornelia. Monsieur Guedzi n'était plus à craindre, le voyage se fit agréablement par les plaines de la Bosnie, pays peu connu mais fertile et où les dames portent un costume avantageux. Le col de Tina offrit un passage favorable à travers la montagne. Une fois de l'autre côté, on put apercevoir les sourcilleux sommets des Alpes dinariques, au sein desquels était situé le château de Montefalcone. Déjà, depuis quelques jours, le cercueil de fer était vide. Polybird s'était conduite avec tant de félicité dans l'affaire de la ville de Sélène qu'elle n'excitait aucune défiance. On la laissait libre. Elle n'en abusait aucunement, et l'usage immodéré qu'elle faisait des liqueurs alcooliques quand l'occasion s'y prêtait n'étonnait personne, parce que les jeunes villageoises anglaises sont sujettes à ce goût qui est partagé du reste par quelques demoiselles bien nées. Elle portait d'ailleurs l'habit de l'autre sexe, ce qui rendait moins impropre ses préféquents péchés d'ivrognerie. Vous n'avez pas oublié qu'elle continuait son rôle de double de M. Guzzi. Attention, c'était le seul moyen qu'on eut d'introduire Edward Barton, Esquire, dans l'enceinte de l'inaccessible château. Homer a employé un stratagème semblable dans son immortelle épopée. Le cercueil de fer peut passer pour une réduction du cheval de Troie. Au physique, Polly avait un peu changé depuis le décès de son séducteur. Elle s'était amoindrie en tous sens, offrait l'image d'un monsieur Guzzi, diminué par la fatigue ou la maladie. Mais elle avait pris en même temps un air d'importance qui déplaisait à notre Anna. Mary Bond seule avait le don de la faire obéir. Oh, je ne l'ai pas en faire mystère. Il lui plantait sa tête dans l'estomac ou le pied plus bas et en sens inverse, chaque fois qu'elle ne se comportait pas à son idée. Le soir du sixième jour, on s'engagea dans les gorges et bientôt les rayons de la lune éclairèrent la masse imposante de la demeure des comtes qu'elle a rendu si célèbre sous le nom du château du Dolph. Aucune lumière ne brillait ni sur les remparts ni aux fenêtres gothiques des corps de logis. Tout aurait semblé mort dans l'antique forteresse si une forme humaine ne se fût montrée au sommet de la haute tour. Une jeune fille ou son ombre, vêtue de longs voiles blancs. « Oh, la voilà, je la reconnais !» dit notre Anna. Et Ted, joignant les mains avec sensibilité, s'écria « Oh, Cornelia, ma fiancée, est-ce toi que je vois ou n'est-ce que ton spectre bien-aimé ?» Pour la réussite de l'entreprise, nos compagnons devaient ici se séparer en deux groupes. « Monsieur Guzzi, comme nous appellerons de nouveau la malheureuse Polly Bird, devait entrer seul au château avec le cercueil de fer qui était porté par deux hommes du peuple loués en la ville de Biarritz, laquelle offre cette particularité d'être située au milieu des eaux de l'Uma. Et notre Anna, Mary Bones et Great Jack s'étaient déterminés à veiller au dehors. L'instant de la séparation fut cruel. Les voyages engendrent l'intimité. Les dangers courus en commun opèrent forcément un rapprochement. Et je ne vous ai pas caché que, dans le premier élan d'un cœur naïf, elle avait honoré jadis Edward Barton de ses sympathies. Au moment de le quitter, peut-être pour jamais, elle répandit quelques larmes, mais bientôt, la vigueur exceptionnelle de son caractère prenant le dessus, elle dit d'un ton ferme « Allez, Edward Barton !» Mon frère et mon ami, où le devoir vous appelle. Soyez prudent, autant que brave, au milieu des périls inconnus qui vous entourent. Rappelez-vous que mes vœux vous accompagnent, et que la nuit comme le jour, je suis prêt à voler à votre aide. » Elle se détourna, et le cercueil de fer fut ouvert. Edward Barton s'y coucha. Les deux hommes de Biarritz le chargèrent sur leur civière. M. Guzzi avait naturellement le mot de passe. Aussitôt qu'il fut appelé de l'autre côté des douves, n'ayant pas de corps sur lui et échangé les paroles voulues avec la sentinelle, il fut introduit. Quand on lui demanda ce qu'il souhaitait, il répondit « Voir le comte Tiberio sur le champ ». Le comte achève ce repas du soir, lui fit-il répondu, et ce n'est pas la bonne heure pour le voir. Toutes les heures sont bonnes quand il s'agit d'apprendre une heureuse nouvelle, répartit M. Guzzi. Allez trouver le comte et dites-lui que l'homme qui est arrivé apporte le cercueil de fer. Le valet obéit. Monsieur Gutsy, resté seul avec Édouard, se pencha jusqu'à l'un des trous et lui dit tout bas: bon, tout va à merveille, songez à bien faire le mort. Oh, je suis déterminé à tout, répondit Ned, pour sauver ma fiancée. Mais on étouffe là-dedans, parole d'honneur. La rentrée du valet mit un terme à cet entretien. Le comte attendait M. Guzzi dans son appartement. Les hommes du peuple rappelés chargèrent de nouveau le cercueil sur la civière. On longea 13 corridors, on traversa plusieurs douzaines de chambres qui avaient dû être magnifiques, mais dont l'état de délabrement accusait l'abandon, continué pendant une grande quantité de siècles. M. Guzzi ne put réprimer un infernal sourire en passant auprès des ruines qui marquaient l'emplacement de l'ancienne chambre à coucher de la comtesse Douairière de Montefalcone. Toute cette partie du château, non encore réparée, réveillait en lui le souvenir de l'expédition dirigée par son défunt patron, et il se disait « Bon, c'était bien fait, mais je ferais mieux. » « Ah ah, vous commencez à deviner, je le soupçonne, que la confiance du pauvre Ned et notre Anna était terriblement mal placée. » On arriva enfin à un quartier mieux tenu dont les tapisseries étaient raccommodées, les meubles époussetés. Le comte Tiberio Palma d'Istria était assis, ou plutôt vautré, dans un fauteuil énorme dont la fabrication remontait au temps de la domination des doges. Il était ivre, comme cela lui arrivait maintenant tous les soirs après souper. La Laetitia lui avait donné ses mœurs bestiales pour le dominer mieux. M. Goetzi entra, suivi de ses deux porteurs, qui déposèrent le cercueil de fer sur les dalles, et reçurent l'ordre de quitter la chambre, mais de ne point s'éloigner. « Est-ce l'anglais que tu nous amènes dans cette malle ?» demanda Tiberio. « Bonsoir, coquin. » « Oui, répondit M. Goetzi, c'est l'anglais. « Je vous salue, monseigneur. Est-il bien mort ? Oh, je m'étonne que vous ne soyez pas incommodé déjà par l'odeur du cadavre. » Tiberio se boucha aussitôt le nez de confiance. « Voulez-vous le voir ? Ajouta M. Guzzi, qui se retourna vers le cercueil. « Oh, diable ! S'écria le comte, je fais ma digestion en ce moment. Ne plaisante pas avec mon estomac. » L'anglais doit être mangé au vert, car toi, Milton, nous l'a porté, bonhomme. Ben, il était lourd et la route est longue, repartit M. Guzzi. Ben, c'est une infection. Oui, allez, fais-en vite. Que t'avais-je promis pour ta récompense? Ben, là, signora, Laetitia Palanti. Ah, est-ce vrai, coquin? Ben, cela se trouve à merveille. Je l'ai aimée comme la prunelle de mes yeux, mais tout passe. Elle porte une perruque de morte. Ah ah, pauvre comtesse Grete, la plaisanterie était bonne. Maintenant, j'ai fantaisé d'épouser Cornelia, ma pupille, pour avoir sa jeunesse avec sa fortune. Eh bien, mais l'anglais dans les oubliettes. Je te donne, Laetitia, 20 ans, et dis en passant qu'on me vende du vin et qu'on m'amène ma pupille Cornelia. » Là-dessus, M. Guzzi sortit avec le cercueil de fer, et le comte Tiberio se remit à boire. Édouard Barton, malgré l'incommodité de sa position, s'applaudit du succès de la ruse. Il pensait qu'on allait maintenant le conduire vers Cornelia, et qu'elle trouverait bien un moyen d'introduire ses amis au château. Cela avait été ainsi convenu, et l'espoir de Ned fut fortifié par ce fait que M. Guzzi n'exécuta que la moitié des ordres du comte Tiberio. Il commanda bien qu'on lui montât du vin, mais il ne parla point de Cornelia. Combien de corridors, combien de ponts suspendus, d'escaliers, de salles et de chambres inhabitées y avait-il entre l'appartement de Tiberio et celui de Laetitia? La belle italienne était couchée à l'orientale sur une pile de coussins. Elle avait beaucoup engraissé dans ces derniers temps. Et c'est ici que notre cher Edward Barton allait en apprendre de belles. « Mais la portez-vous vivant ?» s'écria la Palantine dès qu'elle aperçut M. Gutsy. Et quand celui-ci eut répondu affirmativement, elle se souleva sur ses coussins et s'écria « Oh, ciel, comme le cher amour doit être mal là-dedans! Ouvre bien vite cette boîte, que je m'enivre de sa vue et que je le presse sur mon cœur !»« Oh, doucement !» repartit cependant M. Gutsy. Oh, le jeune homme est robuste et résolu. Si nous le mettions en liberté, il nous en ferait repentir. Penses-tu donc, demanda Laetitia, qu'il puisse résister à mes charmes? Bon, j'en suis sûr. Mais ignorez-vous qu'il est amoureux de Cornelia? Une mauviette, s'écria la signora en levant ses vastes épaules. Je parie qu'elle ne pèse pas 100 livres de bonne chère. Monsieur Gutsy fit la grimace et répliqua « Oh, vous en parlez bien à votre aise, telle qu'elle est, je ne veux qu'elle pour récompense. » Ned crut avoir mal entendu. Après cela, pensa-t-il, Polly joue peut-être la comédie. « c'est juste, » disait cependant l'Italienne. « Je te l'ai promise et tu l'auras, mais pas tout de suite. » Mais pourquoi attendre? Je suis pressé. Parce qu'auparavant, il faut nous défaire de cet imbécile de Tiberio. Cela prendra du temps, objecta M. Gutsy. Laetitia répliqua. Oh non, tout sera fini demain matin. Et si tu as soif, demande ma 11e femme de chambre. 16 ans, un bouton de rose. Je l'ai prise à la ferme ce matin et tu trouveras son sang plus frais que celui de cette Cornelia. Les yeux de M. Gutsy brillèrent. Et toi, vis cela par un de ces petits trous. Le bandeau qui était sur sa vue tomba. Il pensa avec horreur que Polly était restée vampire et qu'il était entre ses mains. La petite paysanne, répondit M. Gutsy, n'est pas de refus, car j'ai eu beaucoup de misère dans le voyage et peu d'occasion de prendre un bon repas. Mais je vous préviens qu'il ne faut point vous endormir dans une dangereuse sécurité. Vous avez des ennemis autour du château. Quels ennemis? Ben, Miss Annaward et ses gens. Noël frémit entre les parois de sa caisse. Mais il eut assez de force d'âme pour ne trahir son mécontentement par aucune exclamation intempestive. Un moment de silence eut lieu, cependant, entre l'Italienne et M. Gutsy. Elle semblait réfléchir profondément. « Écoute, dit-elle, tu vas descendre dans le souterrain du Nord, qui est le moins long des quatre puisqu'il n'y a qu'une lieue. Et quand tu seras au bout, tu feras tourner le rocher, monter sur pivot, et tu te retrouveras dans la campagne. Fais alors diligence, rends-toi auprès de l'Anglaise et de ses gens, offre-leur adroitement de les introduire auprès de Cornelia et amène-les-moi. Le reste me regarde. Tu m'as entendu, obéis. Pendant cela, je vais fournir à mon bel Édouard des explications après lesquelles il me donnera son cœur et sa main avec plaisir. » La prison de notre Cornelia était à l'étage le plus élevé de cette tour. Non point par pitié, mais dans la crainte d'altérer sa beauté par une réclusion trop étroite, le comte Tiberio avait permis qu'elle se promenât sur la plateforme. Là, dans cette enceinte étroite, environnée de créneaux, elle vivait seule avec la pensée de son jeune amant et le regret du bonheur enfui. L'aspect de la grande nature élevait son âme tout en nourrissant sa mélancolie. La voûte du ciel qui prodiguait au-dessus d'elle le jour, les splendeurs azurées de sa coupole, la nuit, les 1000 diamants suspendus dans ses profondeurs, éloignaient d'elle le désespoir en lui parlant de Dieu. C'était elle, cette blanche apparition que nos amis avaient aperçue en arrivant au pied de la montagne. Et ce soir-là, lasse de contempler le ciel, Elle abaissa ses regards vers la terre et tressaillit en apercevant un feu sur la montagne voisine. Jamais rien de pareil ne s'était montré jusque-là. Pleine d'étonnement et déjà d'espoir, peut-être, elle fixa cette lueur de toute la puissance de ses beaux yeux. Elle eut peur de rêver. Elle croyait reconnaître Anna, sa meilleure amie, Great Jack, le vieux serviteur du cottage, et Mary Bones, le valet de son cher Edouard. Un quatrième personnage était debout devant le feu, mais comme il tournait le dos, on ne pouvait voir son visage. Mais c'était peut-être Edouard. Ce devait être Edouard. « Edouard, Edouard !» cria-t-elle avec un indicible élan de joie. Hélas, celui qu'elle prenait pour Edouard était M. Goetzy, qui avait rejoint nos amis par le souterrain du Nord et qui poursuivait son système de supercherie et essayait de les entraîner tous à leur perte. Edouard Barton était resté seul après le départ de M. Goetzy avec la signora Laetitia. Et cette femme artificieuse lui témoigna d'abord la plus aimable affabilité. « Gentleman, lui dit-elle d'une voix douce, ne voyez dans tout ce qui se passe que le résultat de mon affection pour vous. Elle date de l'époque à laquelle, terminant vos études, vous vîntes passer vos vacances au cottage où j'étais en visite avec mon élève, Mademoiselle Cornelia de Witt, qui me doit sa brillante éducation. Je ne pus vous voir alors, la lèvre ombragée d'un léger duvet éparée de tous les charmes de l'adolescence, sans que mon faible cœur en éprouvât les effets. Élevé dans les principes les plus austères, je respectais les convenances, mais en me promettant bien d'employer les talents que Dieu m'a prodigués à reconquérir la fortune de mes pères afin d'être digne un jour, gentleman, d'unir ma destinée à la vôtre. Edouard Barton était anglais, donc il avait de l'esprit. Malgré toute l'horreur que lui inspirait un pareil discours, il résolut d'opposer l'adresse à la ruse. Dans la position gênée où je me trouve, répondit-il d'un ton insinuant, il est bien difficile, madame, de nourrir des pensées d'amour. Les parois de ce cercueil arrêtent les élans de mon âme. Et comment céderai-je à vos attraits puisque je n'ai pas le bonheur de les voir ? Laetitia réfléchit un instant, frappée par la justesse de cette observation. « Oh, je conviens, dit-elle enfin, que nous serions plus à notre aise si vous pouviez échanger avec moi des paroles charmantes, aussi si commodément sur mes coussins. Mais la prudence s'y oppose. D'ailleurs, autant où nous sommes, le mariage n'est plus tout à fait une affaire de sentiment. Je dois d'abord dessiller vos yeux. » Vous avez cru jusqu'ici que cette petite fille, Cornelia de Witt, était riche et que moi j'étais pauvre. Ah, abandonnez cette erreur. Cornelia ne possède rien et je suis une opulente héritière. Sachez que je suis d'origine princière. J'ai un vague souvenir de mon berceau tout orné de dentelles avec plusieurs rangs de perles fines. Une femme belle comme le jour se penchait au-dessus de mon sommeil et guettait mon premier sourire. C'était ma mère. Et ma mère se nommait la princesse Loisca Palma d'Istria, la propre belle-sœur du comte Tiberio. Cela était bien égal à Édouard, mais dans le but de se rendre agréable, il s'écria « Oh, est-il possible ?» « J'en ai tous les papiers, répondit la signora Laetitia, légalisés et enregistrés. Faut-il vous raconter comment une troupe de bohémiens qui rôdait autour du château m'enleva au baiser de la princesse ma mère ?»« Bon, non, c'est soif que j'ai, interrompit Édouard. » Mais aussi astucieuse qu'elle était effrontée, Laetitia prit sur son guéridon un verre qu'elle remplit d'excellent vin et un chalumeau. Ayant introduit le chalumeau dans le cercueil par un des trous et rentrant trempé l'autre bout dans le verre, Elle dit « Mais buvez tant que vous voudrez, cher gentleman. Je suis heureuse de satisfaire au moins les désirs de mon bien-aimé. » Et tandis qu'il buvait, elle poursuivit « Oh, vous direz-je les efforts inutiles de mes parents pour retrouver leur fille unique. Malheureusement, leurs recherches se dirigeaient du côté des Bohémiens. Or, ce misérable, s'étant un jour approché de la côte, avait été attaqué par des corsaires liparistes et j'étais devenu la proie des vainqueurs. J'avais 5 ans, mon honneur était à l'abri. Des pirates algériens m'enlevèrent aux corsaires et je fus nourri pour le sérail. Un jeune eunuque favorisa mon évasion. Je revins en Italie, mais j'ignorais alors le nom et l'adresse de mes parents. Et tour à tour pensionnaire dans la plus célèbre maison d'éducation de Turin, lauréate de l'Académie des cruches cassées, fugitive marchande de petites essences de faïence antique pour les Anglais, lectrice d'un cardinal, servante dans des plus vieux ermites de l'Apennin, et demoiselle de compagnie du fameux Rinaldo, chef de brigands, je ne crois pas qu'il ait jamais eu de jeunesse plus accidentée que la mienne. J'atteignis ainsi ma 15e année, et à cette époque je rencontrai dans un bois épais un homme en haillons qui se mourait. À ma vue, il poussa un cri faible et me pria de déchausser le bas de ma jambe gauche. Les ordres d'un agonisant sont sacrés. J'obéis et il s'écria « C'est elle !» Et Dieu a voulu, ajouta-t-il, que je puisse avoir expiré et expié le principal de mes forfaits. Vous portez, jeune étrangère, sous la cheville, en dehors du côté du talon, un signe qui vaut pour vous un acte de naissance. Je le reconnais puisque c'est moi qui vous arrachais de votre berceau. Il m'apprit alors le nom de mes nobles parents. Je lui pardonnai, il mourut dans mes bras. À dater de ce moment, au milieu de vicissitudes diverses et sans nombre, mon occupation favorite fut de chercher mes papiers. Mon père était mort, chargé d'ans et d'honneur. Ma mère était une sainte dans le ciel. Monsieur Gulzy, homme dangereux mais habile, et que je crois vampire au fond, me fut d'une grande utilité dans mes recherches. Je l'avais rencontré à la cour. Ce fut lui qui me conseilla de faire l'éducation de Cornelia pour me rapprocher de mon oncle, le comte Tiberio, qui voudrait en vain maintenant me disputer le patrimoine de Montefalcone. Et ce fut moi qui plaçai Monsieur Gulzy près de vous, pour qu'il vous apprît à m'estimer et à me chérir. « Joli cadeau !» dit Édouard. « Ne me jugez pas !» prononça sévèrement l'italienne. « L'amour est mon excuse. Quant à mon élève Cornelia de Witt, c'est une petite sotte vaniteuse et ridicule qui n'a que la beauté du diable. Elle n'aura pas un bayoc de l'héritage des comtes de Montefalcone. Ah, c'est moi qui vous le dis. Je prendrai tout, comme c'est mon droit, et le premier usage que je ferai de ma richesse sera de vous couvrir d'or. Bien voilà, telles sont mes propositions. Oh, je vous laisse bien entendu toute liberté de repousser mes avances. Mais en ce cas, Miss Cornelia sera livrée à M. Gutsy, qui la boira comme un verre de limonade. » Nous avons laissé Cornelia au sommet de la tour du captif, regardant de loin le feu auprès duquel ses amis étaient en conférence avec un étranger que, vu de dos, elle prenait pour Édouard. Vous avez deviné que cet étranger était l'ancienne Polyberne, usurpant décidément la personnalité de M. Gutsy. Bon, j'ai dû vous dire quelque part les projets de cette créature perdue par la fréquentation d'un monstre. En dépit de son sexe primitif, elle avait résolu d'épouser Cornelia de gré ou de force pour avoir l'immense héritage des comtes et faire une fin honorable. Le prétendu M. Gutsy n'eut pas de peine à faire entendre à notre Anna qu'il avait accompli sa mission heureusement, que Ned était au cœur même du château ennemi, mais que, pour terminer l'aventure, il avait besoin d'aide. Great Jack et Mary Bones lui-même furent trompés. Et dans l'expédition de la ville de Sélène, Polly Bird avait donné de tels gages de loyauté que nul ne songea à la soupçonner. Monsieur de Guetsy se mit donc à la tête de la petite troupe et l'on se dirigea vers la bouche du souterrain. Armez-vous de courage, dit l'imposteur en précédant nos amis dans les entrailles de la terre. Une nuit terrible se prépare pour vous. Monsieur Guetsy avait apporté quelques torches de bois résineux. On les alluma. Mais leur clarté se perdit aussitôt dans les sombres profondeurs de la caverne, éclairant seulement, çà et là, l'effroi de certains reptiles qui fuyaient vers la nuit. Et dans cette nuit, un son étrange naquit et mourut, rendant un monstrueux soupir. « Mais qui est-ce ? » demanda notre Anna, arrêtée par le poids qui étouffait sa poitrine. « Allez toujours, répondit M. Guetsy. Ce sont les anciennes harpes éoliennes de la comtesse Elvina qui sont passées de mode et qu'on a remisées ici parce qu'il n'y a pas de place au grenier. » Elle voulut faire quelques questions au sujet de cette comtesse Elvina, mais M. Guetsy pressa le pas. « Oh, les torches !» ordonna M. Guetsy. On obéit, et les parois suintantes d'une vaste salle souterraine apparurent vaguement. Regardez au-dessus de vos têtes, commanda encore M. Guetsy. Chacun leva les yeux. On aperçut une voûte très élevée, au centre de laquelle s'ouvrait un grand trou rond et noir. Mais à quoi sert ce trou? Demanda notre Anna. C'est le tuyau des oubliettes du comte Tiberio, répondit M. Guetsy. Les victimes tombent par là, dans le gouffre qui se trouve, vous pouvez le voir exactement au-dessous du trou. Eh quoi ? S'écria notre Anna, navrée. Ces barbares curiosités du Moyen-Âge existent-elles encore ? Et la vive lumière de la philosophie n'a-t-elle pas anéanti toutes ces horreurs ? M. Guetsy eut un ricanement. Oh, ça en sort plus très souvent, répondit-il. Je ne crois pas qu'on en ait fait l'usage depuis la comtesse Elvina. Elle se trouva tout à coup dans une salle gothique du plus lugubre aspect, dont la haute cheminée était surmontée d'un miroir de Venise estampé, représentant la passion de notre Seigneur. À droite de la cheminée, la muraille, tapissée de cuir cordouan d'un brun très foncé, montrait une tache blanche qui était un bouton d'ivoire. M. Guetsy avait dans ses bras un gros chat noir dont il rompit successivement les quatre pattes avec une froide cruauté. « Ben, c'est pour qu'il ne s'échappe pas, dit-il. Vous allez voir quelque chose de drôle. Je vais le poser à l'endroit même où était la comtesse Elvina. Regardez bien le minet. » Il déposa le chat noir qui miaulait lamentablement sur une certaine dalle plus large que ses voisines. L'animal essaya de s'enfuir, mais il ne put à cause de ses pattes cassées, et M. Guetsy marcha en riant vers la muraille où était le bouton d'ivoire. Il posa le doigt sur le bouton, la dalle bascula, le chat disparut. La porte s'ouvrit et des satellites du comte Tiberio entrèrent, armés jusqu'aux dents. M. Guetsy montra du doigt notre Anna et ses compagnons en disant « Les voilà, je vous les livre !» Mary Bones, cette fois, eut beau résister, et nos malheureux amis furent chargés de chaînes et entraînés. Il faut vous figurer un épouvantable cachot au fond duquel notre Anna est couchée sur quelques brins de paille avec un anneau de fer au cou. Voilà où son généreux dévouement l'avait conduite. « Jeune vierge d'Albion, dit tout à coup une douce voix auprès d'elle, je suis la comtesse Elvina de Montefalcone. » Elle releva ses paupières alourdies par les larmes et vit une femme pâle agenouillée auprès de son grabat. Cette femme était jeune encore, mais la souffrance avait blanchi ses cheveux. Et quoi ? S'écria notre Anna. Est-il possible que vous ayez échappé au danger du gouffre ? Cet incident date de plusieurs siècles, répondit la femme pâle avec un sourire mélancolique mais agréable. Occupons-nous plutôt du présent. Je suis entré dans votre cachot par l'effet d'un pouvoir particulier et je vais me faire un plaisir de briser vos fers sur le champ. Levez-vous, la liberté vous est rendue. Et comme elle voyait dans les regards de notre Anna son ardent désir d'en savoir un peu plus long, elle eut l'obligeant d'ajouter « Un barbare usurpateur vous avez condamné à mourir. Et celui que vous appelez M. Goetzi, et qui n'est autre que l'infâme Gertrude de Pfaffsorschön, ma rivale, dont l'âme, après plusieurs migrations, était passée dans le corps de la villageoise Polly Bird, vous a vendu. Sachez que le comte d'Iperio et la signora Laetitia, séparés un instant par la convoitise et la concupiscence, se sont réconciliés cette nuit. Pourquoi ? Bien parce que le jeune Medici Barton a repoussé bien loin les offres malséantes de l'italienne, et que la belle Cornelia a humilié le comte Tiberio par ses dédains. Réunis dans une même pensée de vengeance, les deux monstres à face humaine ont résolu de mettre à mort M. Barton et Mlle de Witt cette nuit même. « Et que puis-je pour les sauver ?» demanda notre Anna en se tordant les mains. « Dieu est grand, répondit la femme pâle, et vous êtes libre. » Notre Anna s'élança vers la porte de son cachot qui venait de s'ouvrir comme par enchantement. Elle se mit en marche, soutenue par un instinctif espoir. Au bout du septième corridor, elle rencontra un marbrier qui sculptait une paire de bras dans un bloc d'albâtre. Ces deux bras semblaient appartenir à deux corps de sexe différents, et joignaient leurs mains en une affectueuse étreinte. Le sculpteur voulut embrasser notre Anna, et il lui dit « Mais comment trouvez-vous mon travail, ma belle? C'est une bonne plaisanterie de la grosse Laetitia qui veut orner ainsi les tombeaux du jeune Anglais et de la Cornelia. » Elle s'enfuit désespérée, pendant que le sculpteur continuait sa besogne en riant. À son compte, elle dut faire aussi plusieurs lieues dans les corridors sans fin et à travers les salles délabrées. Enfin, au détour d'une galerie, elle aperçut de la lumière sous une porte et en même temps un bruit de voix, les unes courroucées, les autres plaintives, vint jusqu'à ses oreilles. Elle prit son élan, quoiqu'elle fût rendue de fatigue. La porte se trouvait ouverte. Elle entra et poussa un cri de terreur à la vue de ses deux amis, Edward Barton et Cornelia, chargés de chaînes. Les beaux cheveux de Cornelia étaient coupés. Ned avait la corde au cou. Il portait d'ailleurs le costume caractéristique et funeste des malheureux que l'Inquisition condamnait jadis à périr dans les tourments. Derrière eux se tenait un homme à l'aspect féroce, que son costume entièrement rouge et la hache qu'il portait sur son épaule désignaient suffisamment comme exerçant la profession de bourreau. Dans une autre partie de la salle, un second groupe était formé par le comte Tiberio, la signora Laetitia et M. Goetzi. Ce dernier n'avait pas l'air content et réclamait la promesse qu'on lui avait faite de livrer Cornelia à sa soif dénaturée. Mais la Laetitia se moquait de lui et Tiberio le menaçait de lui faire trancher la tête. Ils se tenaient tous les deux, bras dessous, et avaient l'air d'être amis comme coquins. À la vue de notre Anna, ils eurent un sourire cruel. Et la signora dit « Ah, voilà justement le bas bleu !» Mais elle, sans prendre garde à cette parole, se précipita vers ses amis et les serra dans ses bras. « À la bonne heure !» dit cette atroce italienne. Elle prend position d'elle-même, nous allons faire d'une pierre trois coups. » Elle se retourna alors pour faire un pas vers la cheminée, et ce mouvement démasqua la partie de la muraille qui était derrière elle. Ce fut pour notre Anna un trait de sinistre lumière. Dans son trouble, elle n'avait pas d'abord reconnu la chambre des oubliettes, mais maintenant elle voyait le miroir estampé de Venise, la tapisserie de cuir de cordoue et le bouton d'ivoire. « Fuyons !» s'écria-t-elle éperdue. Il était trop tard. L'Italienne toucha le bouton de la dalle, bascula. Mais au prodige, notre Anna, Cornelia et Ned furent soutenus sur la pente par une main surnaturelle, et la comtesse Elvina, sortant inopinément du gouffre, s'écria avec la voix de Mrs. Ward. « Ah, ça, chérie, qu'est-ce que ces caprices-là? Ouvrez donc à ton idée de rester au lit jusqu'à 10 heures, un jour de noces. » Et il y avait un grand bruit dans le corridor. William Radcliffe se mouchait. Le bon monsieur Ward parlait d'envoyer chercher le serrurier. « Sauvez-les, sauvez-les !» s'écria notre Anna, qui se trouva sur ses pieds en robe de mariée, au milieu de la chambre où le soleil de mars entrait joyeusement. Il paraît que Milady eut le tort de sourire, car Mademoiselle 97 s'interrompit brusquement. Oh, « je vous comprends, » dit-elle d'un ton scandalisé. « Vous pensez que notre histoire va finir par cette formule usée jusqu'à la corde? C'était un rêve. Avouez que vous le pensez. Eh bien, c'est ce qui vous trompe. » Elle avala lestement le fond de sa dernière tasse de thé et reprit. « Non, je n'aurais pas dérangé le gentleman pour si peu. Ce n'était pas un rêve. D'abord, elle était sujette à des crises de seconde vue. Depuis l'âge de 9 ans, et ses parents dissimulaient avec soin ce don ou cette infirmité. Assurément, je ne veux pas dire qu'elle eût accompli en une nuit ce voyage si long et si accidenté, mais il avait autre chose qu'un rêve, vous allez voir. Quand elle ouvrit enfin sa porte, ses parents, M. Radcliffe, constatèrent avec effroi le changement qui s'était opéré dans sa personne. Elle les regarda d'un air égaré et leur demanda ce qu'était devenue la comtesse Elvina. Ils la crurent folle, d'autant qu'elle exigea formellement, avant de passer outre au mariage, promesse de partir incontinent pour Montefalcone en stipulant qu'on passerait par Rotterdam. Et tout de suite après la noce, on partit, car elle n'en voulait point démordre. Je vous fais observer qu'il y avait les lettres reçues la veille au soir. Ce n'était pas un rêve non plus, ces lettres. Il y avait lieu d'aller voir un peu ce que Ned et Corny étaient devenus. Bien désormais, je n'ai plus qu'à vous soumettre les faits sans y ajouter aucune observation. Lors de l'arrivée à Londres, la première chose qui frappa les yeux de notre Anna fut une affiche ainsi conçue. Capital excitement. Dévoration d'une jeune vierge par le vrai vampire de Peter Vardenne, qui boira plusieurs pintes de sang comme à l'ordinaire, avec la musique des gardes à cheval. Wonderful attraction indeed. Elle indiqua cette affiche à Great Jack, mais ce vieux et fidèle serviteur ne se souvenait de rien. Le phénomène qui a servi de base à ce récit était absolument personnel à notre Anna. On passa le détroit. Pour sortir de Rotterdam, elle retrouva la chaussée rompue où le jeune inconnu comparable à un dieu s'était pour la première fois offert à ses regards. Elle coucha à l'auberge de la bière et l'amitié, dans la chambre où était le trou de poêle, les rideaux à ramage et les batailles de l'amiral Ruther. Enfin, elle reconnut tout, même les plus minces détails. « Et la ville de Sélène ?» demanda Milady. « Attendez, laissez-moi dire. On alla d'abord au plus pressé à Montefalcone, où l'on arriva le jour des noces où Corny et de Ned. Sauvé par la comtesse Elvina, j'espère, interrompit encore cette terrible comtesse. Non, répondit Mademoiselle 97 avec une nuance d'embarras. Mais il y a réellement dans le pays une légende ayant trait à cette infortunée victime de la féodalité. Le comte Tiberio, la signora Laetitia, nourrissait dans tout épargne les plus perfides desseins contre nos fiancés. Ils n'osèrent les mettre à exécution par suite d'un fait que je qualifierais de providentiel. Le jeune lord Arthur vint dans le pays, accompagné du respectable ecclésiastique son précepteur, pour étudier sur place les champs de bataille du célèbre Scandenberg. Et cela suffit pour déjouer les trames des deux scélérats ? S'écria Milady. Oui, madame, répondit Miss James sèchement. Si je pouvais vous révéler le nom glorieux, presque diva, de ce jeune nobleman. Et monsieur Gutsy ? Oh, il avait épousé une veuve dans le commerce. Mais Sélène, la ville morte. Milady, répondit Miss James gravement. Certaines choses restent au-dessus de notre entendement, et même du vôtre, quoique vous appartieniez à la noblesse. Il faut la protection d'un vampire pour entrer dans Sélène, et on n'a pas toujours un sous la main. Nos deux couples de nouveaux mariés allèrent à Semlin avec Greg, Jack et Mary Bones, dont la crinière était réellement diminuée des trois quarts. On ne put découvrir Sélène, mais on découvra les marchands qui avaient vendu le fourneau, le charbon et la cuillère de fer. Il y a plus, la disparition du chirurgien Magnus Esli était un fait notoire dans la ville. Et depuis trois semaines, le logis du dessinateur Esclavon était vide. Ici, Mademoiselle 97 se leva et nous fit la révérence finale. Ces jours derniers, à Paris, j'ai reçu du comté de Stafford la lettre suivante. « Dear Sir, » Elle avait l'habitude de placer à la fin de ses compositions des pièces justificatives et explicatives. « Tout est clair dans notre récit, excepté ce qui concerne le jeune inconnu comparable à un dieu. Je crois qu'il serait bon de soulever le voile. » Votre livre y gagnerait une importance historique. Cela se pourrait faire, soit dans une postface où vous diriez « Nous n'avons pas osé écrire dans ces pages frivoles un nom qui remplit le monde de son incomparable éclat, le nom de celui qui mit Napoléon Bonaparte dans sa poche et qui surpasse les autres héros modernes, autant qu'Achille était au-dessus de ses rivaux grecs et troyens, etc., etc., avec une allusion fine à la statue que les dames de Londres élevèrent à sa grâce, en costume grec, qui pourrait passer pour être un peu trop décolleté quant aux jambes s'il s'agissait d'un homme du commun. Soit dans une simple note fortement soulignée et ainsi conçue, mais c'était Wellington, avec plusieurs points d'exclamation. Je préférerais pour ma part cette dernière forme. Your truly, etc. Signé Jeb.